Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Plus de la moitié de la population malienne est jeune, mais l'accès à un emploi décent constitue un défi majeur pour cette couche de la population. Même si ces jeunes n'ont pas la même définition d'un emploi décent, leurs attentes en matière d'insertion professionnelle sont grandes. En plus de l'accès à l'emploi, l'engagement citoyen dans la sphère publique reste aussi un défi pour les jeunes maliens. Pour nombre d'entre eux, l'engagement citoyen peut être aussi motivé par la qualité de l'emploi. Et justement, quel impact la qualité de l'emploi a-t-elle sur l'engagement civique des jeunes? Faso Bara Nejoro, c'est la thématique qu'aborde ce panel organisé par Studio Tamani et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Et c'est dans le cadre du programme de recherche et de dialogue pour la refondation Prédire. Nous sommes ce soir au Centre international des conférences de Bamako et nos panélistes sont à ma droite. Nous avons Madame Fatoumata H. Traoré Samake. Elle est experte en genre et gouvernance. Nous avons également Monsieur Abdoulaye Guindo. Il est le directeur national de l'emploi. Et à ma gauche, nous avons Monsieur Sori Ibrahim Cissé, il est le président du Conseil national de la jeunesse. Et enfin, nous avons M. Mohamed Alignang, il est chercheur à l'association Djogoni Maya. À la modération, je suis Lala Djahara Touré, Noum Djiré assure la technique. Bonsoir et soyez les bienvenus.
Le Grand Dialogue.
Je vous le disais tantôt, nous avons un charmant public ce soir à qui je vais demander d'ovationner très fort. Je veux vous sentir encore plus. Est-ce que vous êtes là? Waouh, vous êtes là et très en forme. Merci beaucoup. Ceci dit, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Et la première question s'adresse à M. Abdoulaye Guindo. Il est le directeur de l'emploi, je le disais tantôt. Nous parlons d'emploi et d'engagement civique. Dites-nous, comment les politiques publiques visant à améliorer la qualité de l'emploi peuvent-elles encourager un plus grand engagement civique chez les jeunes, monsieur?
Merci de m'avoir invité aujourd'hui pour venir apporter mon éclaircissement. Je remercie le NIMD pour avoir initié cette activité très importante qui va permettre non seulement d'informer les jeunes, de les sensibiliser, de les orienter. Et je vous demande également et je vous exhorte à démultiplier ces actes d'activité partout sur le territoire national pour que l'ensemble des jeunes aient des informations fiables qu'on peut vérifier à tous les niveaux et le partage sera grand et tout le monde aura l'information. Vous avez une lourde tâche, je vous encourage vraiment à pouvoir le supporter. Donc, par rapport à la question posée par Lala sur l'emploi et l'engagement des jeunes, vous savez que le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle est un ministère clé aujourd'hui pour les jeunes. Et au niveau de notre département, qui est aujourd'hui dirigé par Mme Oum Sall Seck, nous avons l'ambition, la volonté d'aider les jeunes, les encourager à obtenir des emplois pour qu'ils puissent participer pleinement à leur rôle qui est le développement social, économique du pays. Et ce développement ne peut pas passer sans l'engagement. Et cet engagement-là, on ne peut l'avoir que quand on a un emploi décent. Avoir un emploi décent, c'est quoi? C'est être dans une position de travail où on a un salaire qui peut subvenir à ses besoins, où on sent qu'on est sécurisé dans son travail et là où on sent que la protection sociale également est établie. Donc c'est ça le travail décent. Donc ce travail décent-là, tout le monde l'aspire pour répondre au peuple, pour répondre à sa société. On doit être dans une position qui nous permette de pouvoir aider les autres. Quelqu'un qui travaille, qui a un emploi, qui a un salaire, il est prompt à répondre à la sollicitation de la société. Il va aider ses concitoyens, il va aider la population, il va adhérer. Il a des droits et des devoirs qu'il doit satisfaire. Si aujourd'hui, on n'a pas ces moyens, si aujourd'hui, on n'a pas d'emploi, on ne peut pas subvenir à ces besoins-là. C'est pourquoi il est primordial d'avoir un emploi décent pour une pleine citoyenneté au niveau de la République. Je vous remercie, madame.
Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors, plus spécifiquement, les politiques que vous avez déjà mises en place, comment elles peuvent améliorer davantage hein, la qualité de l'emploi et surtout encourager les jeunes dans l'engagement civique?
Très bien. Donc, les politiques que nous avons mises en place, vous avez vu qu'au niveau du département, nous avons mis beaucoup de dispositifs pour que les jeunes puissent accéder à l'emploi. L'un de ces dispositifs-là, je vais parler de l'APEJ, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ. Il y a l'ANPE, l'Agence pour l'emploi. Il y a des projets et programmes. Avant tout ça, là, il y a eu les deux directions nationales. Au niveau de notre département, il y a la Direction nationale de l'emploi. La Direction nationale de l'emploi élabore la politique nationale de l'emploi, les stratégies, l'ensemble de la mise en œuvre qu'on doit avoir par rapport à l'accroissement des emplois décents. Donc, nous veillons à ça. Il y a également la politique nationale de la formation professionnelle qui prépare les jeunes à accéder à des emplois. Aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde puisse rentrer au niveau de la fonction publique. Il faut préparer d'autres jeunes à avoir d'autres emplois, qui peut être l'auto-emploi, qui peut être l'emploi salarié dans le privé. Donc, nous préparons les jeunes à ce que chacun ait un emploi. Pour vivre dignement, il faut avoir un emploi. Il faut avoir un emploi décent. Et là, tout le département est en train de tout faire pour que ces emplois-là soient fructifiés à tous les niveaux, pour que les jeunes qui sortent des écoles supérieures, pour que les jeunes qui sortent des centres de formation professionnelle, pour que les jeunes qui veulent s'installer à leur propre compte puissent bénéficier de ces accompagnements qu'il faut pour qu'ils puissent subvenir pleinement à leur rôle et qui est la citoyenneté. Et cette citoyenneté-là, qui est l'appartenance que nous voulons nous approprier au niveau de notre pays pour que nous puissions jouer notre rôle de droit et de devoir, il faudrait que le jeune soit dans une position qui le permette de prendre ça en compte. Voilà un peu ces dispositifs-là qui sont au niveau de notre département qui nous permettent vraiment de créer des emplois, puisque l'objectif même, c'est de faire de l'accroissement des emplois décents. Essayer de chaque année de promouvoir les emplois décents pour que les jeunes puissent s'installer, pour que les jeunes aient de l'emploi, pour que les jeunes, en s'installant, puissent et également à leur propre, à leur niveau aussi, créer d'autres emplois. Nous veillons à ça et c'est pour ça que le département est là.
Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je me tourne alors vers monsieur Mohamed Ali Niang. Nous ne pouvons pas parler de qualité de l'emploi sans toucher à celle de la formation. Comment justement le Mali peut-il aligner son offre de formation avec les besoins réels du marché de l'emploi?
Merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Mohamed Ali Niang et je suis le chercheur associé sur l'étude entre quelle est la perception des jeunes par rapport à la relation entre l'emploi et la participation à la vie publique et civique. Moi et mes collègues, on est aussi en charge de faire une étude transversale sur le Burkina et le Niger pour pouvoir voir les corrélations et les divergences. Donc, depuis le mois de février, on a eu la chance d'échanger avec une centaine de leaders associatifs qui représentent les jeunes. Donc, à travers eux, on a parlé peut-être à des milliers, sinon à des dizaines de milliers de jeunes. Et on a pu parler à 50 intervenants clés qui sont soit des membres du gouvernement ou des agences gouvernementales, des bailleurs ou des ONG et des organisations qui sont en charge de former ou de créer des opportunités d'employabilité pour les jeunes. Donc sur cette étude qui a duré de février et qui doit se clôturer dans quelques semaines, ce qu'on a pu apprendre, c'est que les jeunes, l'emploi décent est un vrai problème au Mali et les jeunes sont friands de trouver cette corrélation. Donc le premier problème qui se pose, pas que pour les jeunes mais aussi pour les employeurs, c'est l'inadéquation entre les emplois qui sont proposés au Mali et le niveau, souvent la volonté et souvent même la connaissance des jeunes par rapport à l'existence de ces emplois. Pour être concret, on va prendre un exemple. Le Mali est un des plus gros producteurs d'or en Afrique. Avons-nous une école de mine ? Non. Proprement dit, non. Dans les zones minières, est-ce qu'on a des écoles qui sont axées sur la formation professionnelle qui touche à la sidérurgie, à l'électricité, à la conduite des engins lourds, à la sécurité, santé au travail, tout ce qui touche aux mines ? Pas vraiment. Le Mali est un des plus gros producteurs en termes de cheptel et agricole, et on a un potentiel naturel énorme qui est avéré. Mais combien d'étudiants ou combien d'apprenants avons-nous dans ces filières ? Donc, si on parle juste en termes quantitatifs, il n'y a pas assez de centres, d'universités, de programmes, de projets, comme on veut, n'importe quel instrument qui existe. En termes de quantité, il y a un problème. En termes qualitatifs aussi, on n'est pas en train de produire à une vitesse qui est suffisamment décente, ou on n'est pas en train de faire venir des expatriés ou des gens qui ont ce niveau pour qu'ils viennent occuper ces postes. Mais dans tout ça, comme on a une salle qui est remplie de jeunes, on va parler de cet aspect, c'est que les jeunes ne sont pas intéressés par les emplois qui sont rentables. Pour qu'un emploi soit décent, il faut qu'il soit rentable. Si on veut être un géographe au Mali et que tu as la fac de géographie et qu'il y a des milliers de personnes, bon, bonne chance à trouver un emploi quand tu auras un master en géographie. Si vous voulez aller à la fac d'anglais, vous êtes 10 000, 15 000 dans la cohorte, quand vous allez avoir vos diplômes, bonne chance. Donc, c'est cet appétit que les jeunes n'ont pas, ou ils n'ont pas la notion de rentabilité. Alors que si on prend des postes comme des soudeurs qui sont sur des sites miniers ou spécialisés, un soudeur gagne 400 000, 500 000, 600 000, 700 000, 800 000 par mois avec un BT2. Un technicien en groupe électrogène, on a tous vu les difficultés qu'on a eues ces dernières années, peut gagner 500 000, 600 000, 700 000, 800 000 sans avoir eu un bac, s'il sait faire son travail, évidemment. Donc, l'inadéquation commence déjà par ce que les jeunes ont envie de faire. Et pour ne pas juste taper sur les jeunes, parce que je vois des gens qui sont peut-être des parents qui sont en train de dire « oui, c'est bien ça », c'est que les parents aussi ne voient pas la formation professionnelle ou la formation technique comme une voie sur laquelle tu veux lancer ton enfant jeune qui a un voie de succès. C'est un choix par dépit. Si tu n'as pas pu faire des études générales, va dans la filière technique, alors que ce n'est pas ça du tout. Hein. Si tu as un enfant qui est talentueux, ou vous êtes dans un endroit, dans une zone agricole, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui sait cultiver sur 1 ou 2 hectares comme un expert, il peut se faire 25, 30, 40 millions par an, que d'essayer de devenir un docteur et la fac de médecine a une capacité limitée de gens qui peuvent recevoir. Donc, pour ne pas être plus long, je vais m'arrêter là pour le moment.
Alors, vous pensez que le changement de mentalité doit d'abord venir des parents, et quelles doivent être les priorités de l'État face à ce problème ?
C'est une bonne. En effet, je pense que la voie des enfants est tracée à un bas âge. Et les parents aussi, ils font de leur mieux. Je ne dis pas que c'est de la mauvaise foi, souvent c'est de la méconnaissance. Et là, c'est là que l'État intervient. Parce que l'État, c'est un tout, c'est un nous. Et l'État a l'obligation et a l'expertise aussi d'insuffler des politiques, insuffler une vision, mettre en place une stratégie. Donc moi, je ne veux pas en vouloir à une personne qui est dans une zone rurale qui elle-même n'a pas été à l'école et qui pense qu'aller à l'école, ce n'est pas très important. Mais juste, il n'y a pas d'école. Et quand tu es à l'école, les cours, tu n'es pas sûr que ton enfant apprend les choses à une vitesse décente parce que l'instructeur lui-même aussi a des lacunes. Donc la première étape, c'est qu'on se mette d'accord et qu'on dialogue et qu'on parle. Si on veut un pays qui est refondé, un pays qui est renouvelé, ça commence avec l'éducation. Et l'éducation, elle n'est pas juste une éducation académique où on est un intellectuel, où on parle un français limpide. C'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est savoir quel est le besoin, qu'est-ce que le marché demande, donc qu'est-ce que la communauté demande. Et si tu arrives à assouvir les besoins d'un marché ou d'une communauté, ben, tu seras récompensé. Et si tu es récompensé, tu seras récompensé avec de l'argent parce que tu crées de la valeur ou tu résous un problème. Et donc, si tu es récompensé maintenant, tu peux vivre décemment. Et si tu vis décemment, tu vas consommer. Et si tu consommes, tu vas créer l'emploi pour quelqu'un d'autre. Cette personne aussi va consommer, va créer un emploi pour quelqu'un d'autre. Donc, il faut que dans la communication, dans le dialogue que nous sommes en train de faire, qui doit se faire à tous les niveaux, tout le temps, partout, dans toutes les langues et dans tous les niveaux de compréhension, c'est que le développement, c'est comme une chaîne de vélo. Pour que tu avances sur une chaîne de vélo, il faut que la chaîne, elle tourne. Si la chaîne s'est coupée au début ou à la fin, ça n'a pas d'importance. Le vélo n'a juste plus de chaîne et ça s'est coupé. Donc si c'est au niveau des parents que ça ne fonctionne pas, la chaîne va se couper. Si les parents font de leur mieux, mais la jeunesse ne veut pas suivre, ça ne va pas marcher. Si la jeunesse, elle suit et qu'elle arrive sur le marché du travail et qu'on n'a pas des politiques macro qui permettent de les absorber, ils vont soit aller à l'immigration, ils vont soit se mettre à leur propre compte, ou ça va décourager leurs petits frères et sœurs que l'école ne sert à rien. On peut essayer de faire des choses alternatives comme les arts, la culture, le rap, des choses comme ça. Ou dans les endroits où c'est plus dangereux, les gens vont rejoindre des groupes extrémistes violents et ils vont essayer de gagner leur vie comme ils peuvent le gagner, ou ils vont rejoindre des sites d'orpaillage, de vraiment détruire la nature, détruire nos coutumes, nos localités, détruire nos terres agricoles, mais c'est pour gagner leur vie.
Merci beaucoup, Monsieur Ali Niang. Alors, Monsieur Sori Ibrahim Sissi, en tant que jeune leader, quel rôle les organisations de jeunes jouent-elles dans la promotion de meilleures conditions d'emploi et le renforcement de la participation civique ?
Sori Ibrahim Sissi, président du Conseil national de la jeunesse du Mali. Je suis très honoré aujourd'hui de prendre part à ce panel. Au nom de tous les jeunes du Mali, nous remercions NMD de tous les efforts qu'ils sont en train de déployer pour renforcer la capacité des jeunes et faire la promotion des jeunes.
Merci beaucoup, camarade bâtisseur. Le Conseil national de la jeunesse du Mali est l'organe fêtière de toutes les organisations, mouvements, associations et fédérations des jeunes du Mali. Et le Conseil national de la jeunesse est l'interface entre l'État et les jeunes. À ce niveau, le CNJ, avec le nouveau format, tout ce qui est quand même question de l'emploi et de la formation professionnelle, nous savons très bien qu'il y a eu des efforts qui ont été fournis par les associations. Mais malheureusement, nous avons constaté que ces efforts sont éparpillés. Avec le nouveau format du CNJ, nous avons dit, nous avons un rôle de faire-faire. C'est accompagner les organisations, les appuyer et jouer un rôle de lobbying auprès des plus hautes autorités. Nous avons dit, nous avons déjà 21 fédérations spécialisées affiliées au Conseil national de la jeunesse. Et notamment, nous avons FENAGER qui évolue dans le domaine de tout ce qui est entrepreneurial. Les jeunes ruraux sont regroupés là-bas. Nous avons dit que nous n'allons pas quand même inventer des roues. Nous allons renforcer ces capacités pour que ces jeunes puissent quand même avoir et bénéficier quand même de tout ce qui est question de politique et la promotion de l'emploi. Parce qu'il y a tellement des initiatives qui sont financées, mais les jeunes ne sont pas au courant. Et le CNJ, aujourd'hui, et nous avons dit, il y a des jeunes entrepreneurs, il y a des jeunes qui ont des initiatives, mais malheureusement, ils n'ont pas un endroit pour pouvoir quand même exprimer et de faire valoir. Et nous avons dit, on a lancé un avis pour l'enregistrement des associations en dehors des fêtières, pour pouvoir donner quand même un canal aux jeunes de venir s'exprimer et échanger. Et à ce niveau, aujourd'hui, le CNJ avec les associations, parce qu'au niveau du bureau national, nous avons des vice-présidences thématiques et nous avons la formation et l'emploi là-bas. Et le CNJ participe aux différents conseils d'administration du ministère de la formation et de l'emploi. Et nous avons dit, oui, nous, on représente les jeunes. Mais nous avons constaté que les gens qui nous représentaient au niveau de ces conseils d'administration, souvent, nous n'arrivons pas à voir réellement et sentir réellement leur présence. Avec le nouveau format, nous avons décidé de créer un cadre entre le Conseil national de la jeunesse et nos représentants dans les différents conseils d'administration et des comités de pilotage. Ça va nous permettre de prendre en compte les préoccupations des jeunes déjà remontées par les associations, les mouvements, et enfin qu'avant les conseils d'administration et les comités de pilotage, qu'on puisse quand même préparer nos représentants afin qu'ils puissent mieux défendre les jeunes du Mali.
Merci beaucoup.
Merci.
La prochaine question s'adresse à Madame Fatoumata Ashtraoui. Elle est experte en genre et gouvernance. Alors, Madame Samaké, quels mécanismes spécifiques doivent être mis en place pour respecter davantage l'esprit de la loi 052 et garantir une réelle égalité d'accès à l'emploi?
Merci beaucoup. Je dois d'abord commencer par saluer tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Et merci également aux organisateurs de ce symposium sur une problématique d'actualité, notamment la question de l'employabilité des jeunes ainsi que la question même de citoyenneté. Cela dit, je pense que la loi de l'esprit de la loi 052 du 18 décembre 2015 est clair. C'est-à-dire qu'on veut faire en sorte qu'il y ait, par rapport aux fonctions nominatives et électives, donc qu'il y ait au moins un minimum de 30% pour l'un ou l'autre sexe. Donc cela veut dire que pour tout ce qui est nomination ou élection, donc que ce soit des hommes ou des femmes, que cela ne dépasse jamais 70%. Or, malheureusement, nous assistons quand même à une situation qui est un peu, on va dire, déplorable, notamment, non seulement par rapport aux fonctions électives, mais beaucoup plus par rapport aux fonctions nominatives. Je vais juste prendre quelques exemples, notamment en ce qui concerne les nominations au sein du gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes à 18% au sein du gouvernement, c'est-à-dire 5 femmes sur 28. Également, quand on regarde au niveau de l'Assemblée nationale depuis les indépendances jusqu'à nos jours, on n'a jamais dépassé 15%. Et ce n'est qu'en 2020, lors des élections législatives, qu'on a vraiment voulu faire un saut, parce que là, on a eu des résultats très palpables avec l'application de la loi 052. On a pu avoir 41 femmes sur 147. Donc, ça équivaut à peu près à un taux de 27%. C'était du jamais vu dans l'histoire du Mali. Et malheureusement, cette assemblée n'a pas duré plus de quelques mois. Et aujourd'hui, nous assistons au niveau même des nominations, il y a beaucoup d'écarts. Et on pensait que c'était la non-application de la, disons, du décret d'application de la loi 052. On a adopté le décret d'application de la loi 052, mais malgré tout ça, on voit que ça ne bouge pas. Parce que quand on regarde très bien ce qui se passe lors des nominations, moi j'ai suivi un peu toute l'année 2024-2025, les nominations en conseil de ministre n'ont jamais excédé 22%, même quand on nomme des femmes. Et en même temps, on va voir que malheureusement, c'est souvent même c'est 0% de femmes qui sont nommées. Donc, en la matière, on va tout simplement dire que cette loi n'est pas appliquée à la lettre, malgré l'existence du décret d'application, mais c'est également lié à un certain nombre de situations, notamment le fait qu'aujourd'hui, on n'ait pas un mécanisme même de veille par rapport à l'application de la loi 052. Et ce mécanisme de veille, normalement, devrait permettre aujourd'hui de faire appliquer cette loi. Parce qu'il y a aussi la possibilité même de saisir le tribunal administratif par rapport justement à chaque fois qu'il y a une nomination et que le quota n'est pas respecté. Donc qu'on puisse faire appel pour que carrément on essaye même de reprendre les nominations. Mais cela ne se fait pas. On voit très bien qu'on a une société civile qui n'agit pas en la matière. Mais même les femmes, les fêtières de femmes qui sont là souvent sont dissuadées dans leur élan. Souvent, elles ne prennent même pas ce travail-là à cœur.
Madame, donc, si vous le permettez, les statistiques ne sont pas réjouissantes. Mais également, qu'est-ce que les femmes elles-mêmes peuvent faire pour inverser cette tendance? Parce que le manque de niveau est beaucoup décrié également.
Oui, c'est ce que je disais. Je dis que normalement, c'est les associations, les organisations de femmes qui devraient se battre pour l'application de cette loi en premier. Et malheureusement, on voit que ça ne fonctionne pas parce qu'on a vu, il y a eu quelques élans à un certain moment, mais ces femmes-là ont été dissuadées dans leur élan. On est allé les voir nuitamment. Il y a eu des femmes à qui on a dit, vous êtes femme leader, on va vous divorcer si vous décidez d'aller faire appel par rapport à cette loi. Il y a des intimidations. Et aujourd'hui aussi, je pense aussi, c'est le fait qu'on n'ait pas un mécanisme valable au niveau national qui puisse faire en sorte que cette loi-là puisse être appliquée. Aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est d'avoir une masse critique de femmes qui soient conscientes de l'enjeu de cette loi. Parce que cette loi a été adoptée en 2015, ça fait 10 années. Et malheureusement, depuis 10 ans, cette loi n'est pas appliquée. On est arrivé en 2023 où il y a, par exemple, la constitution de 2023 qui dit clairement dans son article premier que les hommes et les femmes sont égaux en droit et en devoir. Cela voudrait dire même qu'on a dépassé cette loi de 052. On est actuellement à la question de la parité. Normalement, il devait y avoir parité. Dans un Mali où aujourd'hui, nous avons environ 23 millions de personnes où presque 50% sont des femmes. Et on a une masse critique de jeunes, de femmes qui ont atteint, de jeunes femmes qui ont atteint l'âge adulte aujourd'hui, qui ont les mêmes compétences, les mêmes expertises, qui ont suivi les mêmes écoles et qui peuvent valablement occuper des postes, quel que soit le niveau.
D'accord. Monsieur le directeur, vous venez d'entendre Madame Samake. Est-ce que les mécanismes que vous avez déjà mis en place favorisent davantage l'employabilité des femmes ?
Au niveau de notre département, l'ensemble des projets et programmes que nous mettons en œuvre, nous exigeons un quota pour les femmes, un quota pour les personnes handicapées, un quota pour les déplacés internes.
Est-ce qu'il est respecté?
Ce quota-là est respecté par rapport à l'ensemble des choix exécutés au niveau du département. Je vous le dis ici, il y a des exemples concrets. Vous allez voir sur le terrain, tout ce que nous mettons en œuvre, ces quotas-là sont respectés. Aujourd'hui, les partenaires techniques qui nous accompagnent mettent en œuvre des projets et des programmes. Eux-mêmes, ils viennent déjà avec des quotas que nous améliorons souvent sur le terrain. C'est vrai qu'elle a parlé de la loi en faveur des femmes, 052, mais également, oui. Également, par rapport à cette loi-là, souvent, nous, on dépasse de très loin. Puisque aujourd'hui, si vous regardez, même aujourd'hui, le programme présidentiel par rapport à la formation professionnelle, l'APEJ vient de recruter 2500 jeunes pour les mettre en stage de formation professionnelle. Sur les 2500 jeunes, la majorité est venue aux femmes et aux filles.
Cela s'applaudit, non?
Vous allez voir sur le terrain, la majorité, c'est les filles, les jeunes femmes. Donc, c'est pour vous dire que au niveau du département du ministère de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, nous mettons l'accent sur la promotion des femmes, nous mettons l'accent sur la parité, nous mettons l'accent sur les personnes vivant avec les handicaps.
Vous faites beaucoup déjà, mais selon une récente étude menée par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, 31% des jeunes interrogés estiment que la corruption, le favoritisme et le népotisme constituent des obstacles majeurs à l'efficacité des programmes d'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le directeur?
Merci pour cette question. Et je suis surpris et même, je ne sais pas, parce qu'au niveau du département, on devrait avoir déjà accès à ces informations. C'est vrai, c'est une enquête qu'ils ont eu à faire à leur niveau, mais peut-être nous, on ne partage pas l'information avec eux ou bien les résultats. Mais ce qui est sûr, au niveau du département de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, tous les choix que nous faisons au niveau de ces départements, c'est des choix transparents, c'est des choix qu'on peut vérifier. Nous avons digitalisé les dépôts des dossiers. Nous avons digitalisé les informations par rapport aux choix. Et l'ensemble des parties prenantes font partie de la sélection. Il y a des commissions où les jeunes sont représentés, les gouvernorats sont représentés, les maires sont représentés au niveau du choix. Donc, c'est possible. C'est une étude, on ne va pas contester les résultats, mais en réalité, nous faisons de notre mieux pour pouvoir être clair, transparent, précis et digital pour que l'ensemble des parties prenantes puissent comprendre que le choix est là et que c'est un choix transparent au niveau du département.
D'accord. Monsieur Niang, vous venez de suivre votre interlocuteur. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ?
Je pense que ces questions de népotisme ou d'absence de transparence ne sont pas propres à la recherche d'emploi. Elles sont propres à des fléaux qui traversent notre communauté. Et il faudrait, de façon honnête, faire un diagnostic et comprendre pourquoi ça peut exister. On est dans un pays où il y a beaucoup d'informels. Je vais prendre un exemple concret. Si tu es un entrepreneur et tu fais de l'informel, tu n'es pas très très correct avec les impôts, peut-être parce que les impôts sont lourds, tu n'es pas très très correct avec la douane, est-ce que tu vas recruter le premier venu et le mettre comme chef comptable? Ou est-ce que tu vas préférer recruter ton petit frère qui n'est pas un très bon comptable, mais au moins le secret va rester dans la famille? Donc, je ne dis pas que c'est une bonne chose, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais nous, dans nos recherches, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être objectif et de trouver la solution à certains problèmes. Donc oui, il y a beaucoup de népotisme dans le choix des collaborateurs ou dans les recrutements, parce que ça a des avantages, par exemple la confidentialité, mais ça a des gros désavantages parce que tu vas prendre quelqu'un qui est foncièrement incompétent et tu vas le mettre dans une place, tu vas lui donner un boubou qui est trop grand pour lui. Il ne va pas pouvoir te délivrer, sur un point de vue technique, les résultats escomptés. Et ça peut coûter cher à la société.
Mais est-ce qu'il y a forcément un lien entre la qualité de l'emploi et l'engagement civique et citoyen?
Oui, il y a un lien concret. Et, monsieur le directeur, notre étude n'a pas encore été publiée. Je suis sûr que le NIMD va vous le montrer. Donc, je ne vais pas partager mes statistiques parce que c'est que le rapport provisoire qu'on a soumis. Il y a une corrélation directe entre la qualité de l'emploi et l'engagement civique et citoyen. Les jeunes qui ont un emploi stable ou une source de revenus stable sont plus enclins à s'engager dans la vie politique parce que la politique demande un peu de moyens, demande un peu d'argent, mais surtout demande un peu de crédibilité. Si tu n'es pas capable de nourrir ta femme et tes enfants, est-ce que tu vas lever la main pour dire « votez pour moi, je vais m'occuper de la mairie, du gouvernorat ou je peux être président de la République ?» Donc ça, c'était un. Mais on a aussi vu que les jeunes qui n'ont pas de moyens ne s'engagent pas dans la voie politique conventionnelle, mais s'engage très souvent dans le milieu associatif, qui est encore plus local. Donc, il faut faire une dichotomie entre la vie politique pure et dure et la vie publique. Donc, les jeunes qui n'ont pas les moyens s'engagent dans la vie publique via des associations, via des regroupements de jeunes, et militent de façon un peu plus locale, mais ils se font entendre. Mais c'est clair et net qu'il y a une catégorie de jeunes qui se cherchent. Et si tu cherches ce que tu vas manger ce soir ou comment tu vas payer pour tes dépenses élémentaires de pâte dentifrice tu n'as pas le temps de te mêler de la vie politique ou publique. Donc, cette catégorie existe aussi.
D'accord. Est-ce que la politique de création de l'emploi au Mali prend en compte la qualité de l'emploi, M. Niang? Est-ce que la politique de création de l'emploi prend en compte la qualité, justement, de l'emploi?
Oui, j'aimerais profiter de ce forum pour dire que la politique de l'emploi au Mali est plus développée et plus sophistiquée qu'on le pense. Entre l'Observatoire national pour l'emploi, l'ANPE, l'APEJ, les ONG et les organisations comme GRET qui sont dans ce domaine sont très forts. Et nos partenaires techniques et financiers, pour en citer quelques-uns, peut-être LuxDev, entre autres, qui investit beaucoup dedans, l'ambassade des Pays-Bas, les outils sont bien faits. Franchement, ils sont bien faits. Ça prend en compte le genre, ça prend en compte la jeunesse. Un peu moins vu la situation qu'on traverse aussi aujourd'hui, la géographie. Donc, avant, on était dans toutes les régions du Mali, aujourd'hui, un peu moins. Donc, je pense que la politique en elle-même et les outils et les institutions qui existent sont bonnes. Ce que l'APEJ a comme mécanisme de garantie, si on va dans d'autres pays de la sous-région, ça n'existe pas. Ce que le gouvernement dit, le quota pour la commande publique qui est destiné à la jeunesse et aux jeunes, c'est réel. Le poids de la CNJ au Mali, quand on va dans d'autres pays de la sous-région, les organisations de jeunesse n'ont pas forcément ce même poids. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'il faut trouver un vrai forum où les gens peuvent ne pas juste parler, partager leurs doléances ou exprimer leurs amertumes, mais qu'on puisse ensemble fédérer les énergies et construire. C'est-à-dire, au-delà du dialogue, maintenant, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle de la co-création. On crée ensemble. Pas, nous, on a créé telle chose à Bruxelles, on est venu essayer d'adapter ça. Non, on a créé ça ensemble. Les jeunes, vous étiez partie prenante. Les parents, vous étiez partie prenante. Si on fait une politique du genre, il faut que les maris soient partie prenante pour que ça ne soit pas... Non, ça c'est, on n'a rien à voir dedans, c'est votre chose. Non, tu es le mari. Est-ce que tu veux que ta femme travaille? Oui. Dans quelles conditions? J'aimerais qu'elle rentre à telle heure. Et l'employeur aussi, d'adapter la charge de travail, dire OK, il n'y a pas de problème.
D'accord. Nous allons permettre très rapidement à M. le directeur de réagir à ce que M. Niang vient de dire.
OK, merci beaucoup, Mme Lala. Et par rapport à un point qu'il a évoqué, même par rapport à la statistique dont il vient de donner, vous savez qu'au Mali, 96% des entreprises sont informelles. C'est des entreprises qui créent les emplois. Et l'État n'a pas de contrôle direct sur ces entreprises-là. Donc, si l'enquête a eu lieu sur ce terrain, je peux dire qu'on doit accompagner cette étude-là, parce que ça peut être une bonne étude. Aujourd'hui, nous venons de quitter l'OIT à Genève, où on a décidé de tout faire pour que aujourd'hui on fasse le chemin pour quitter l'informel, pour venir au formel. Mais il y a beaucoup de conséquences et aujourd'hui, le fisc dont il a fait allusion empêche beaucoup d'entreprises de se formaliser pour éviter de payer les taxes, pour éviter de payer. Mais dans ces conditions, si vous voulez recruter, obligatoirement, il va y avoir du népotisme, il va y avoir de la corruption et même de la gabegie.
Mais l'État ne doit-il pas intervenir pour un peu régulariser le secteur?
L'État est en train de s'investir. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y aura une convention internationale sur la régulation. Et cette régulation-là va permettre à tous les États qui vont ratifier la convention de quitter l'informalité pour aller vers la formalité.
Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Alors, Madame Samaki, si l'emploi décent est la clé de la participation démocratique, comment le Mali peut-il s'assurer que les politiques d'emploi contribuent réellement à un nouveau contrat social où la jeunesse est un acteur central de la gouvernance?
Je pense que cela est possible parce que actuellement, je pense avec toutes les politiques que nous avons, notamment par rapport à l'emploi, par rapport à la jeunesse et même tout ce qui a été fait en lien avec les États généraux sur différentes problématiques liées à la vie de la nation. Donc je pense que cela devrait créer un environnement propice à une meilleure gouvernance, non seulement dans le secteur de l'emploi, mais aussi par rapport à l'engagement des jeunes. Parce que la question de l'engagement des jeunes est centrale par rapport même au développement du pays. Que ce soit des filles ou des garçons, je pense que chacun a un rôle crucial à jouer pour le développement de ce pays. Et cela veut dire tout simplement que s'il y a un écart, notamment par rapport justement à l'accès à l'emploi, que vous soyez fille ou garçon, cela va impacter négativement sur le développement. Il y a quelques années, une étude a montré que le continent africain a un déficit de financement de 42 milliards de dollars. Et que ne serait-ce que l'Afrique subsaharienne, par exemple, on peut réduire de 12%, disons, augmenter de 12% le PIB annuel si on réduisait les écarts entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons. Donc, en matière justement d'emploi salarié et tout ce qui s'ensuit. Donc, les politiques aujourd'hui doivent être des politiques volontaristes, engagées vers l'avenir. Et l'avenir, c'est les jeunes. Et en ce moment-là, je pense aujourd'hui, on doit avoir un environnement qui permet une éducation de qualité aux jeunes, une formation professionnel pour les jeunes qui ont déjà terminé, parce qu'aujourd'hui, on se rend très bien compte qu'il y a une inadéquation entre le travail, disons, l'éducation et l'emploi. Donc, les jeunes sont déversés sur le marché de l'emploi, mais ne savent pas ce qu'ils savent faire concrètement. Et aujourd'hui, il doit y avoir carrément une refonte du système éducatif qui doit être forcément axée sur l'employabilité de tous les sortants du système éducatif. Donc, que ce soit au niveau secondaire ou au niveau universitaire. Aujourd'hui, la pyramide du système éducatif malien est inversé, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, on doit pouvoir chercher les voies et moyens pour aller justement vers cette éducation de qualité, permettre un engagement plus citoyen des jeunes, parce que pour que les jeunes aussi puissent s'engager, il faut que les jeunes soient dans un environnement qui leur permette de vivre décemment. Donc, pour penser à la politique, pour s'engager pour la cause de la nation, il faut être suffisamment, il faut jouir pratiquement de tous ses droits en matière d'éducation, de santé, d'emploi et autres pour pouvoir justement être utile à la nation.
D'accord. Merci beaucoup. Très rapidement, la même question à Monsieur Cissé. Qu'est-ce que la jeunesse peut faire concrètement dans cette lutte-là? Et nous savons également que le problème des financements constitue aussi un frein aux initiatives de jeunes. Qu'est-ce que vous préconisez en tant que président du Conseil national de la jeunesse?
Merci beaucoup pour cette question essentielle. En tant que représentant de la jeunesse malienne, je crois fermement que l'emploi décent n'est pas seulement une fin en soi, c'est un outil de justice sociale, la stabilité et la participation démocratique. Pour que les politiques d'emploi contribuent réellement à un développement inclusif et durable au Mali, plusieurs leviers doivent être activés de manière cohérente et stratégique. Nous devons travailler à intégrer la voix des jeunes dans l'élaboration des politiques. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les réformes actuelle du pays, ça donne avantage aux jeunes. Nous devons beaucoup nous accentuer à travailler sur là-dessus afin d'avoir préparé des documents, des plaidoyers, afin que nous puissions exécuter sur le terrain. Et en même temps, nous devons beaucoup travailler au niveau local. Parce que raison pour laquelle au niveau des CNJ, dans nos différentes instances, nous avons des nouveaux communales et nous avons dit aujourd'hui, dans chaque région, nous devons nous concentrer sur les potentialités de ces communes, de ces régions, afin que les jeunes puissent en profiter. Et il a parlé de l'éducation, de la formation et l'emploi des jeunes aujourd'hui, qui est très important, à travers la structuration de ces organisations de jeunes, surtout ceux qui sont dans l'informel, ça va beaucoup nous permettre aujourd'hui d'accompagner les jeunes. Ce n'est pas seulement des jeunes qui sont aller à l'école que nous devons nous concentrer. Nous, nous avons dit aujourd'hui, des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ils ont besoin d'être cadrés et d'être accompagnés. On a vu dans les autres pays, par exemple au Maroc, les jeunes, ils ont leur entreprise dans l'informel, mais tout ce qui est question des taxes et impôts, l'État fait de telle sorte que pour qu'ils ne puissent pas subir et en même temps de leur octroyer des marchés au fur et à mesure pour qu'ils s'installent. Raison pour laquelle aujourd'hui, le Conseil national de la jeunesse du Mali, nous allons beaucoup travailler avec les organisations de base, surtout nos fédérations spécialisées. Comme je l'avais si bien dit, nous n'allons pas inventer les roues, nous allons nous accentuer et nous sommes en train de créer un vivier des jeunes experts dans les différents domaines. Dans les jours à venir, nous allons faire l'appel aux jeunes qui ont des expertises pour qu'ils puissent mettre en même temps leur expertise au profit de la jeunesse malienne. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le CNJ seul. Autrefois, quand les gens voyaient le CNJ, les gens disaient tout simplement que le CNJ, nous ne pensons que à nous seuls. Et raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes en train de créer quand même des cadres, des espaces, afin que les jeunes puissent venir s'exprimer et donner leur point de vie afin que nous puissions remonter. Parce que déjà, avec la politique nationale de la promotion de l'emploi, nous allons beaucoup travailler à sensibiliser, à donner les bonnes informations et surtout de veiller, parce que les textes sont là, mais l'application, ça pose problème. Et nous, en tant que l'organe fêtière, avec les organisations de jeunesse, les autres organisations de jeunesse, je pense que nous allons travailler pour relever les défis.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous allons donner très rapidement la parole à M. Niang. M. Niang, qu'est-ce que l'État doit concrètement faire, hein? Nous avons parlé de beaucoup d'aspects pour justement améliorer la qualité de l'emploi au Mali et promouvoir l'employabilité.
Ok, donc merci. Première étape, ce que l'État doit faire, c'est avant tout relancer l'économie et faire la croissance économique, la demande, et c'est ça qui détermine l'emploi. On a une petite population par rapport à la taille de notre pays. On a une demande qui est faible, qui s'amoindrit. Donc il faut relancer la demande, relancer la croissance et s'assurer que ce qu'on va produire a un débouché. Ça, c'est ce que l'État peut faire. Ensuite, on va aussi encourager l'État à permettre aux gens de se recycler rapidement. On a pu le voir à travers la SNJ, la CNJ et des programmes que l'APEJ et ses partenaires sont en train de refaire. Donc, il faut reformer les gens, réoutiller les gens. Et enfin, il faut qu'on voit l'emploi comme un outil de la défense civile. La défense n'est pas que sécuritaire. Tous les jeunes qui ont des emplois, c'est un combattant en moins. Si toi, tu le recrutes, tu lui donnes un travail, c'est un groupe extrémiste qui ne pourra pas le recruter. Donc, il faudrait que la création d'emplois dignes ne soit pas vue comme un privilège, mais comme une exigence civique pour qu'on puisse capturer nos jeunes et s'assurer qu'ils sont en train de travailler pour le bénéfice de nos pays et de nos communautés. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et c'est sur ces mots que s'achève ce débat. Nous avons parlé ce soir de l'impact de la qualité de l'emploi sur l'engagement civique des jeunes. Nous étions au CICB et nous avons reçu Mme Fatoumata Ashtraoré-Samaké. Elle est experte en genre et gouvernance. Monsieur Abdoulaye Guindo, il est le directeur national de l'emploi. Monsieur Sori Ibrahim Cissé, il est le président du Conseil national de la jeunesse. Et Monsieur Mohamed Alignang, il est chercheur à l'association Djokoni Maya. L'équipe technique a été conduite par Nourm Djiré, Sekou Gadigo à la coordination, modération Lala Jahara Touré. Je rappelle que ces débats étaient une collaboration entre l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite et Studio Tamani. Merci à notre charmant public. Merci, applaudissez pour vous. Merci à vous également, fidèles auditeurs et téléspectateurs des Studios Tamani, pour votre aimable attention. Bonne soirée à tous.